La violence de l'étonnement peut révolutionner notre vision du monde et de nous-mêmes en remettant tout en question.
Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité.
La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours.
On oublie qu'émerveillement ne signifie pas naïveté.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
Nous sommes Pierre-Hugo Laplace et nous souhaitons la bienvenue sur notre podcast autoproduit pour Tract et Since Nothing. Au fil des épisodes, nous allons à la rencontre d'artistes, scientifiques, philosophes ou citoyens qui, par leurs travaux ou leurs réflexions, développent des discours alternatifs ou subversifs, c'est-à-dire en rupture avec nos imaginaires sociétaux actuels. Ensemble, nous déconstruisons les évidences qui nous empêchent trop souvent de percevoir l'étrangeté de notre quotidien. Quand bien même qu'il soit joyeux, dangereux, mélancolique ou amoureux, l'émerveillement a mille facettes qui n'attendent qu'à être embrassé. Nous tenons à préciser que nous basons au maximum nos entretiens sur la base de discours validés scientifiquement, rationnels ou basés sur un argumentaire solide au plus proche du réel et des faits, au-delà de nos simples interprétations, afin de valider ou non certaines hypothèses et ainsi nous doter d'une nouvelle grille de lecture fiable de notre environnement. Qu'est-ce qu'une dette? Pourquoi nos gouvernements sont-ils si frileux à investir depuis de nombreuses années? L'économie est-elle une science technique ou un instrument politique? Devons-nous avoir réellement peur de la décroissance? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Dufresne, haut fonctionnaire à l'Assemblée nationale, spécialiste de politique monétaire et directeur de l'Institut Rousseau. Ensemble, nous avons tenté de dégrossir un sujet qui peut parfois faire peur, à savoir l'économie, et tenter de montrer que nous pouvons, dans ce domaine-là, également réécrire les règles du jeu pour une société plus juste, écologique et démocratique. Allez, nous laissons place à notre conversation avec Nicolas Dufresne. Bonjour Nicolas.
Bonjour à vous.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'on va pouvoir, le temps de cet épisode, dégrossir un sujet qui peut être parfois un peu technique, tout ce qui est lié à la monnaie, l'économie, la dette. Donc merci à vous.
Merci à vous pour votre invitation et ravi de discuter de ces sujets avec vous.
Alors pour commencer, on va dire un peu doucement cet épisode, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours, comment vous êtes devenu haut fonctionnaire à l'Assemblée nationale et puis directeur de l'Institut Rousseau?
Oui, alors j'ai un parcours assez classique où j'ai commencé par une fac d'histoire et puis j'ai poursuivi mes études à Sciences Po, d'abord à Sciences Po Grenoble et puis ensuite à Sciences Po Paris. Et en master affaires publiques, et donc j'ai passé les concours administratifs, l'ENA et l'Assemblée, et donc je suis rentré à l'Assemblée en 2012, et j'ai commencé à travailler pour la commission des finances entre 2012 et 2020, et depuis je travaille à la commission du développement durable. Voilà, et donc ça c'est au niveau professionnel, et puis au niveau extra-professionnel, en 2020, avec plusieurs connaissances, amis, des chercheurs, des hauts fonctionnaires, des cadres du privé et du public, nous avons créé un think tank, un laboratoire d'idées qui s'appelle l'Institut Rousseau. Et l'Institut Rousseau a pour vocation de travailler sur les questions de reconstruction écologique, sociale et républicaine. On aime beaucoup ce terme de reconstruction parce qu'on pense que aujourd'hui, du point de vue de l'écologie, il y a un effort matériel très important à fournir, mais aussi du point de vue de la la reconstruction d'une démocratie digne de ce nom, qui aujourd'hui commence à montrer de nombreux signes d'essoufflement et de recul dans un certain nombre de domaines. Et pareil sur le plan social, hein, parce qu'on pense que ça soit la transition écologique ou même l'efficacité économique ne peut se faire qu'avec de la justice sociale. Et pour cela, il faut déconstruire un certain nombre de dogmes en matière économique, en matière institutionnelle, qui ont été érigés jusqu'à ce jour. Et donc, on s'attache à l'Institut Rousseau à faire des propositions concrètes, à porter des projets, des rapports qui permettent de penser concrètement les conditions de cette reconstruction écologique, sociale et républicaine.
Oui, donc à travers l'Institut Rousseau, il y a vraiment une mise en rapport à chaque fois de l'aspect démocratique, économique, social et écologique. Enfin, tout va ensemble, quoi.
Absolument. Alors, on a plusieurs pôles de travail et il nous arrive de faire des notes spécialisées dans chacun de ces différents pôles. Mais oui, on essaye de développer une pensée qui soit une pensée qui connecte ces différents enjeux, parce qu'on en reparlera, je pense, tout à l'heure, mais il y a des enjeux très forts, par exemple en matière économique, à ce qu'il y ait également de la démocratie. Il y a des enjeux également très forts que les institutions politiques et publiques ne sanctuarisent pas des orientations économiques qui ne sont que des idéologies, hein, en partie, c'est-à-dire qui n'ont rien d'immuable ni d'absolument universel. Et bien sûr, une fois qu'on a dit ça, ça renvoie à notre capacité à conduire la transition écologique dans de bonnes conditions, à assurer la justice sociale, etc. Par exemple, juste pour prendre un exemple qui soit un peu parlant, aujourd'hui, en matière écologique, on a des grandes stratégies au niveau de l'État, la programmation pluriannuelle pour l'énergie ou la stratégie nationale bas carbone, où on fixe des objectifs, hein, par exemple la neutralité carbone pour 2050, mais on n'a pas de moyens financiers, économiques qui permettent d'atteindre ces objectifs. Et donc, une des propositions qu'on fait à l'Institut Rousseau, c'est d'avoir, par exemple, une loi pluriannuelle de financement de la reconstruction écologique qui permettrait de fixer pour des périodes des budgets concrètement pour associer en fait les objectifs que l'on se fixe à des moyens concrets et réels, parce que faute de faire cela, eh bien on a une sorte de double discours qui consiste à fixer des grands objectifs et à ne jamais mettre les moyens qui permettent de les réaliser. Donc ça, c'est un des exemples, et il y en a beaucoup, d'interface très forte entre les ambitions écologiques que l'on doit avoir, le volet économique et le volet institutionnel, puisqu'il faut des outils institutionnels qui permettent de garantir que l'on va dans telle ou telle direction.
Hop hop hop, avant de continuer, sachez que chez Tract, nous ne faisons pas que des podcasts ou des vidéos. Notre souhait est de déconstruire et d'analyser les effets néfastes de notre société actuelle, comme les discriminations, les pressions sociales ou encore la crise environnementale, de déconstruire les évidences qui nous font penser que trop souvent la vie est ainsi faite, tout en réfléchissant et en promouvant de nouvelles façons de concevoir cette dernière à travers un prisme poétique. Pour soutenir notre travail, vous pouvez vous rendre sur move.tract.fr, le lien est en description de cet épisode, afin de découvrir l'ensemble de nos champs d'action entre production médiatique et artistique ou encore organisation de débats, et pourquoi pas adhérer à notre association si vous souhaitez rejoindre notre collectif et nous aider à développer nos contenus et nos actions. Merci et bon podcast. Donc bon, on peut en conclure que pour l'instant au niveau écologique, c'est pas tout à fait la priorité, quoi.
Oui, alors c'est sûr qu'aujourd'hui On est, comme chacun sait, dans une période que l'on qualifie de backlash écologique, avec des reculs clairs, de l'abandon de certaines ambitions, que ça soit en matière agricole, en matière de protection des espaces naturels, en matière de reporting des grandes entreprises, en matière de commandes publiques, etc. Oui, donc il y a beaucoup de reculs. Et c'est tout à fait dommage, puisque pour nous, à l'Institut Rousseau, et pour moi en particulier, j'ai écrit plusieurs livres à ce sujet, il y a véritablement un enjeu de positionnement pour l'avenir, et notamment d'efficacité économique pour l'avenir, à être parmi les pays, les continents qui développent de vraies politiques ambitieuses sur le plan écologique, qui développent les savoir-faire associés, les investissements, les techniques. Et c'est regrettable de voir qu'aujourd'hui, on a l'impression parfois que les Chinois, par exemple, ont mieux compris cet enjeu que nous. Et c'est quand même dommageable, parce que l'Europe avait de nombreux atouts dans ce domaine. Elle en a encore, même si l'avantage comparatif qu'on avait est en train de disparaître. Les États-Unis ont fait le choix ils font le choix en ce moment avec Trump d'une politique d'extraction fossile massive. Mais bon, avec Biden, ils avaient aussi eu une politique quand même de développement très fort des énergies renouvelables. Bon, ils font feu de tout bois, et de tout charbon d'ailleurs, si on peut dire, et de tout pétrole bien sûr, et ce qu'on a vu au Venezuela encore récemment l'illustre bien, mais en tout cas il y a qu'en Europe qu'on a l'impression d'une espèce d'immobilité à ce sujet, notamment faute d'outils de financement efficaces dans ce domaine. Et ça, c'est vraiment au cœur de mes travaux. Et je trouve que là, on manque singulièrement et d'imagination et d'ambition.
En parlant de financement, il y a quand même... on y reviendra tout à l'heure pour parler d'économie et d'écologie, mais il y a quand même un mot, en parlant de financement, d'économie, qui revient souvent en ce moment, par contre, à défaut peut-être d'écologie, c'est le mot de dette. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est une dette et à quoi elle sert dans le fonctionnement même de notre pays et son lien avec la monnaie ?
Oui, absolument. Alors la dette, vous avez raison, c'est devenu l'alpha et l'oméga de tout le débat sur les finances publiques. Mais paradoxalement, on en entend toujours parler et au fond, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que j'avance l'idée dans mes travaux qu'en réalité la dette c'est de la monnaie. Il y a peu de gens qui comprennent réellement que aujourd'hui toute la monnaie qui est en circulation est créée par la dette. Elle est créée par le crédit bancaire. Hein, c'est le fameux adage selon lequel ce ne sont pas les dépôts qui font les crédits, mais les crédits qui font les dépôts. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est parce que les banques peuvent créer de la monnaie quand elles accordent des crédits qu'on peut avoir des dépôts, qu'on peut avoir de l'épargne, des moyens de financement. Autrement dit, et ça, c'est un fait incontestable. Si aujourd'hui on remboursait toutes les dettes publiques et privées qui existent, eh bien, tout simplement, il n'y aurait plus du tout de monnaie. Donc, la monnaie disparaîtrait. Alors, une fois qu'on a dit ça, on comprend que, en réalité, la dette est tout à fait nécessaire, qu'elle soit privée ou publique, au fonctionnement de l'économie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pose jamais de problème, mais ça veut dire qu'en tout cas, il faut partir de ce postulat de départ que la dette est nécessaire. Maintenant, La question qui se pose, c'est à quelles conditions, peut avoir ce pouvoir de création monétaire? Dans quel cas doit évoluer la dette? Est-ce qu'il faut laisser la dette filer sans fin? Est-ce qu'au contraire réduire très fortement la dette est positif pour l'économie, etc. Et c'est là qu'il y a des débats. Mais déjà, il faut revenir à la source, à savoir que la dette et la monnaie sont les deux faces d'une même pièce, que la dette et la monnaie entretiennent un lien intrinsèque qui est très fort, qui est consubstantiel en réalité. Et partant de là, qu'on peut pas condamner l'endettement sans comprendre les dynamiques qui sont en dessous et sans comprendre sa nécessité pour le fonctionnement économique. Voilà. Et alors là, on touche à d'autres questions que celles que l'on a dans le débat actuellement, à savoir que toute la question de la dette a été ramenée aujourd'hui au débat entre est-ce qu'il y a trop de dépenses ou est-ce qu'il n'y a pas assez de recettes ou voilà, donc on en revient toujours à une question d'équilibre en réalité entre les dépenses et les recettes. Et moi, ce que je propose dans mes travaux, j'ai écrit deux livres à ce sujet, c'est de décentrer le regard et de se dire avant tout quel est le rapport entre la dette et la monnaie, et donc par conséquent qu'est-ce que ça a comme impact macroéconomique quand on décide d'ajuster la dette à la hausse ou à la baisse. Qu'est-ce que ça a comme impact économique sur l'endettement de savoir qui a le pouvoir de créer de la dette, qui a le pouvoir de créer de la monnaie éventuellement avec ou sans dette, etc., etc. Et c'est là qu'on comprend que finalement, il devient très difficile, et ça c'est ma position, il est impossible même, je dirais, de résoudre aujourd'hui la question de la dette si on continue de réfléchir uniquement en termes de recettes et de dépenses et qu'on ne réfléchit pas plus largement sur les politiques monétaires et sur ce lien de la monnaie avec la dette. C'est l'impensé aujourd'hui, c'est un peu, si vous voulez, comme si on essayait de penser le mouvement des astres dans le cosmos en disant que la gravité n'existe pas. Voyez, bon, c'est une image que j'aime bien prendre pour dire qu'en réalité, la force fondamentale qui n'apparaît pas clairement aux yeux de tous, comme en physique existe la gravité, eh bien, c'est justement ce dont on ne discute pas, ce dont on ne discute pas en matière de dette. Et ça, c'est véritablement problématique.
Pourquoi justement ces points-là ne sont pas discutés? Est-ce que c'est, on va dire, de l'incompétence, ou est-ce que justement c'est se servir de ce prétexte de dette pour faire passer des politiques d'austérité ou des choses comme ça?
Alors c'est un peu les deux, en effet. C'est qu'il y a une culture économique qui est assez faible sur ce sujet, c'est-à-dire que en dehors j'ai même parlé parfois à des banquiers, hein, vous pourrez faire le test avec des banquiers de votre connaissance, qui ne savent pas que les banques privées créent de la monnaie quand elles accordent des crédits. Moi, j'ai parlé à des banquiers qui étaient persuadés que l'argent qu'ils prêtaient, c'était les dépôts de quelqu'un d'autre. En réalité, c'est pas du tout le cas. C'est quand vous faites un prêt par exemple pour acheter une maison, eh ben la banque vous crée de la monnaie, elle enregistre elle crée de la monnaie à son passif sur votre compte de dépôt, elle enregistre à son actif une créance. Et donc c'est une simple écriture comptable. D'ailleurs, il y avait un économiste très célèbre Milton Friedman dont on va reparler, qui disait la monnaie se crée par la plume du comptable. C'est comme ça qu'elle se crée, la monnaie, c'est pas du tout en prêtant les dépôts, etc. Sinon, il y aurait jamais d'évolution de la masse monétaire. Et donc, ça, si vous voulez, les politiques Déjà, un certain nombre de banquiers, d'économistes sont complètement ignorants de cette réalité. Mais alors, c'est encore pire quand on descend, si je puis dire, dans l'arène politique où ces réalités-là sont complètement évacuées. Et alors, elles sont complètement évacuées d'une manière d'autant plus problématique que ça a été délibéré. Alors, je m'explique. Pourquoi je dis que ça a été délibéré? Parce qu'en fait, par le passé, les États n'avaient pas un pouvoir monétaire absolu. C'est pas vrai. On entend parfois, vous savez, des idées selon lesquelles l'État pouvait avant créer toute la monnaie qu'il voulait parce qu'il contrôlait sa banque centrale et que la loi de 73, que certains qualifient de Rothschild, Pompidou, aurait mis fin à ce système-là. En réalité, tout ça, c'est pas vrai. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ce qu'on peut dire d'une manière générale tout de même, c'est que par exemple pendant les Trente Glorieuses et même auparavant, les États avaient davantage d'outils monétaires à leur disposition. Ils avaient la possibilité d'avoir un circuit du trésor, ils avaient la possibilité d'avoir des avances de la banque centrale à l'État, des avances à taux zéro, qu'ils étaient censés rembourser au bout d'un moment, mais en pratique, ils ne les remboursaient pas toujours, parce qu'il suffisait d'augmenter en loi de finances le plafond des avances de la banque centrale à l'État, et ça les déliait de l'obligation de rembourser. Et donc, tous ces outils monétaires-là dont les États disposaient et dont ils se sont servis efficacement, à un moment, ont été remis en cause par des économistes, et notamment par ce qu'on a appelé les monétaristes, dont le chef de file est Milton Friedman, que je citais il y a quelques instants. Et ces économistes-là, qui ont accompagné en réalité toute la vague néolibérale qui a suivi à partir des années 80, ont dit « il faut surtout pas que les États et accès à l'arme monétaire parce que ils vont mal s'en servir, ils vont être des magots et tout ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, voilà, il faut pas que les États aient ce pouvoir-là. Et donc leurs théories ont percé dans le monde d'abord académique et puis ensuite dans le monde politique, et c'est vraiment ce qui a inspiré ensuite la rédaction des traités européens, des règles des banques centrales, des principes d'indépendance des banques centrales, etc. Et l'idée derrière, c'était vraiment que en gros il fallait, pour laisser davantage de place au marché et à l'initiative privée, que les États soient privés de leur pouvoir monétaire. C'était un peu, si vous voulez, on pourrait résumer ça en disant la monnaie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux politiques. En tout cas, c'est ça qu'ils pensaient. Mais le problème, c'est que ce faisant, ils ont complètement coupé, ils ont réussi, ils ont réussi, et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ils ont tellement bien réussi que les politiques ne se préoccupent quasiment plus de politique monétaire, parce qu'ils n'ont aucun rôle à jouer là-dedans, et donc ils ne comprennent pas tous les enjeux qu'il y a à l'interface entre la monnaie, la dette, etc. Et que même quand ils font l'effort de s'y intéresser, eh bien, ils se disent après, oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que de toute façon, les traités européens nous ont privés de toute capacité à agir dans ce domaine-là. Donc, non seulement, si vous voulez, ils ont été tenus à l'écart des politiques monétaires, mais aujourd'hui ils en ont perdu la culture et le et l'imagination, et tout ça c'était délibéré, c'était vraiment pour dire que il fallait pas que l'État se mêle de tout ça, voilà, et c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est un peu des deux, à la fois de l'ignorance qui a toujours existé sur les questions monétaires, c'est des questions assez obscures, et après une ignorance qui a été institutionnalisée à travers des règles économiques, des règles institutionnelles, les traités européens, etc., mais aussi dans d'autres pays, hein, y compris en dehors de l'Europe, même si en Europe on a quand même une banque centrale qui est particulièrement indépendante, encore plus que dans d'autres pays du monde.
Mais du coup, cette perte de culture, on va dire, monétaire, enfin économique, là, de la part des politiques, peut-être que ça traîne aussi. Enfin, on a l'impression maintenant que quand on parle d'économie, c'est que dans un aspect de croissance économique, alors qu'on pourrait imaginer que cette notion d'économie, elle soit pas que dirigée vers ça, justement, qu'il pourrait y avoir des choix d'investissement qui soient faits dans des logiques qui soient pas du tout de croissance ou de faire du profit avec, quoi.
Oui, alors ça, c'est une question qu'on se pose en effet depuis longtemps en économie, qui est la distinction entre la sphère marchande et la sphère non marchande. Alors il est clair qu'on a des économies de marché et que ces économies de marché, elles fonctionnent dans la sphère marchande sur le principe de la rentabilité. On achète, on vend et on produit ce qui est rentable, ce qui va permettre de gagner de l'argent. Et en soi, alors ça a des défauts, mais en soi c'est pas critiquable, c'est une partie de l'économie de marché qui a évolué comme ça. Le problème, c'est que il existe autre chose qui n'est pas moins important et qui est la sphère non marchande. Et la sphère non marchande, c'est tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'éducation, la santé, mais aussi ce qui n'est pas rentable, c'est-à-dire les mesures que l'on peut prendre de protection de l'environnement ou la défense, hein, par exemple. La défense n'a pas vocation à être rentable. On n'embauche pas des soldats pour gagner de l'argent, mais pour se défendre, pour être prêt à réagir à des menaces, etc. Même si on vend par ailleurs des canons. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on vise à soumettre la sphère marchande, la sphère non marchande, à des règles de la sphère marchande. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que, en réalité, la sphère non marchande, elle est là pour soutenir l'économie et la société en général. Et on pourrait dire que c'est grâce à une sphère non marchande, protectrice des individus, qui fonctionne bien, protectrice de l'environnement, etc., qu'on a les meilleures chances finalement d'avoir une économie marchande plutôt épanouie, qui fonctionne pas trop mal, Mais ce qui se passe depuis maintenant une cinquantaine d'années, c'est qu'on a opposé les deux et que on a eu des logiques de prévarication de la sphère non marchande qu'on accuse de ne pas permettre à la sphère marchande d'atteindre son plein potentiel en réalité. C'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on accuse la sphère non marchande d'être synonyme de charges sociales, d'impôts, d'un modèle social lourd, etc. Et donc de priver de dynamisme la sphère marchande. Et c'est là un peu le débat fondamental qu'on a aujourd'hui. Et alors, ce débat est absurde parce que quand on oppose ces deux sphères, au final, on y perd des deux côtés. Mais par contre, il y a quand même un point qui pose question fondamentalement, c'est la question du financement. Et je vais y revenir par rapport à la question après de la décroissance ou de la post-croissance. Et en fait, cette question du financement, elle n'a jamais été vraiment posée. Ou alors elle a été mal posée, si vous voulez. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a un financement de la sphère non marchande, par des prélèvements essentiellement, hein, tels que l'économie fonctionne aujourd'hui, sur la sphère marchande. Et on n'a jamais pensé à comment on pouvait réussir à financer la sphère non marchande en avec des mécanismes qui soient en dehors de la sphère marchande. Moi, si vous voulez, j'ai fait cet exercice de pensée, notamment dans mon dernier livre, La dette au XXIe siècle, de dire, bah, peut-être à un moment, il faudrait séparer ces deux sphères, mais sur le plan financier, c'est-à-dire que, en réalité, on invente de nouveaux mécanismes financiers qui permettraient de financer ce qui doit l'être dans la sphère non marchande, mais sans forcément que ça se traduise par une ponction sur la sphère marchande. Et ça serait un peu un moyen de réconcilier, me semble-t-il, les deux points de vue. Et pour ça, eh bien, ça veut dire qu'il faut inventer de nouveaux circuits de financement, et notamment de nouveaux circuits monétaires. Et je prends l'exemple de la transition écologique. Aujourd'hui, on sait très bien que pour parvenir à nos objectifs, il y a toute une série de dépenses qui ne sont absolument pas rentables. Protéger des forêts, protéger des zones humides, rénover des logements, alors ça peut être rentable, mais généralement c'est à très très long terme, au bout de 20, 30 ans, quand vous faites des économies sur votre facture de chauffage, etc. Bref, il y a beaucoup de financements qui sont nécessaires, mais dans lesquels le marché ne va pas, justement parce que c'est pas rentable. Et comme on a soumis l'État à des logiques de rentabilité, à des logiques de ne pas s'endetter, etc., de baisser les impôts, et voilà, et ben vous avez ces objectifs qui rentrent en contradiction. Et donc là, et ben on ne fait pas ce qu'on devrait faire en matière de financement et d'organisation et de planification de la transition écologique. Parce qu'au fond, on a ce nœud financier, ce problème financier qui n'a jamais été réglé. Et c'est un peu pareil quand on essaye d'imaginer des mécanismes de décroissance. Il y a une partie des économistes qui ont cette crainte et qui disent, en effet, la décroissance, elle est nécessaire parce qu'on ne peut pas continuer à prélever autant sur l'environnement, on ne peut pas continuer à croître indéfiniment dans un monde avec des ressources finies, etc. Il y a un moment où on se heurte à des logiques matérielles. Et donc, il faut introduire de la raison là-dedans. Il faut essayer de baisser les prélèvements. Mais si on le fait et qu'on réduit le volume de l'activité économique, eh bien, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un gros problème de financement de la protection sociale, etc. Parce que justement, ce financement de la protection sociale est aujourd'hui indexé sur l'activité économique et sur les prélèvements sur l'activité économique. Et donc finalement, même si c'est de moins en moins vrai, on pourrait avoir un problème pour financer notre modèle social. Et c'est là justement que de nouvelles approches, de nouvelles idées en matière de financement trouvent leur intérêt par rapport à cette question-là.
Mais avec tout ce qu'on dit, c'est que ça me fait penser que souvent on a l'impression, enfin on écoute beaucoup ces termes de réalité économique, de contraintes financières qui met, on va dire, l'économie comme une réalité concrète, palpable. Alors je ne sais pas si ça vient que de là, mais c'est qu'on se rappelle aussi des discours avec Margaret Thatcher qui disait qu'il n'y a pas d'alternative, et on a l'impression qu'en fait on n'arrive plus à penser que l'économie était aussi peut-être une science politique, c'était pas qu'un outil technique, et qu'on pouvait aussi, enfin qu'on en était aussi les inventeurs, et qu'on pouvait réinventer les règles du jeu, notamment pour pourquoi pas inventer cette société décroissante et post-croissante, notamment.
Oui, alors, absolument. Alors, mais le problème, c'est qu'en plus, même le discours qui consisterait à dire que il y a des réalités économiques qu'on ne peut pas faire autrement, qu'il n'y a pas d'alternative, hein, le fameux Tina, There is no alternative de Margaret Thatcher et de beaucoup d'autres après elle. Même ce discours-là, en réalité, il est en grande partie déconnecté lui-même des réalités économiques. Quand on voit aujourd'hui qu'on est prêt à tout sacrifier véritablement pour tenir des équilibres comptables, pour tenir des règles budgétaires qui n'ont aucune matérialité. Hein. Il faut par exemple revenir sur la manière dont les règles budgétaires, les fameux 3% de déficit et 60% de déficit ont été inventées sur un coin de table par un haut fonctionnaire de Bercy à qui le président Mitterrand avait demandé comment je peux faire pour avoir une règle qui éviterait que mes ministres soient trop dépensiers. Bon, tout ça a été, voilà, tout ça c'est des règles qui sont sorties de l'imagination, de l'idéologie d'un certain nombre d'acteurs. Je disais par exemple que tout à l'heure en matière les monétaristes, en matière monétaire, ont introduit plein de contraintes, plein de nouvelles règles, alors que matériellement, l'économie avait fonctionné de manière totalement différente pendant les Trente Glorieuses et avait fonctionné très bien, avec des règles complètement différentes. Donc en réalité, il n'y a pas du tout, en effet, de règles économiques intangibles, ni dans le temps, parce qu'il faut s'adapter à différentes situations, ni même en matière intellectuelle. Et c'est ce que vous vouliez dire en disant que c'est aussi une science politique. En tout cas, c'est pas une science exacte, l'économie, c'est pas, y a pas des règles immuables comme en physique, etc. Et il faut avoir une approche pragmatique. Or, moi, ce que je reproche à un grand nombre de tenants du néolibéralisme, du monétarisme, c'est qu'ils ont en réalité une approche extrêmement dogmatique de l'économie, qui est pas du tout basée sur des retours d'expérience, qui est pas du tout basé sur du pragmatisme en regardant ce qui marche, ce qui marche pas, mais qui est basé sur des postulats idéologiques comme le fait que non, l'État doit pas avoir accès à l'arme monétaire parce que c'est pas bien et que il fera n'importe quoi avec, alors même que la réalité historique démontre exactement le contraire. Donc il n'y a pas du tout de pragmatisme dans ces logiques-là, et ça les éloigne d'autant plus de l'économie réelle en réalité. C'est ça qui est quand même fou, c'est qu'on voit aujourd'hui que l'économie elle est pas bien en point. Et que les entreprises s'ouvrent, que les agriculteurs s'ouvrent, c'est comme sur les questions de libre-échange. Voilà, on s'est dit à un moment, sur la base d'idéologie, le libre-échange, c'est mieux partout et tout le temps. Bon, eh bien, on a mené des politiques et on a créé des institutions qui ont adopté ces postulats-là, et on en voit les résultats aujourd'hui, les conséquences sur l'agriculture, notamment. La France, qui était un grand pays agricole, importe aujourd'hui plus de la moitié de ses fruits et légumes, ce qui est quand même absolument aberrant. On pourrait multiplier les exemples comme ça à l'infini. Les entreprises investissent beaucoup moins que par le passé. On a des taux de croissance qui n'ont cessé de se réduire. Et donc, si on avait une approche pragmatique et efficace, on regarderait quand même ce qui s'est passé pendant les 30-40 dernières années sur l'application de tous ces principes néolibéraux, et on en tirait le bilan. Et le bilan, il est quand même vraiment pas fameux. et non, pourtant les idéologies persistent et c'est là qu'on a véritablement un problème. Mais si je peux rajouter un mot aussi sur le fait que bon, moi je pense aussi que on a eu quand même l'expérience pendant les Trente Glorieuses de d'une économie qui avait quand même plutôt bien fonctionné. Et pourtant, à cette époque, l'économie, notamment sur les questions monétaires que je connais bien, fonctionnait complètement différemment. On avait, je l'ai dit, des avances de la Banque centrale à l'État. On avait un circuit du Trésor qui permettait à l'État de se financer à des taux préférentiels auprès de banques privées ou d'un réseau de banques publiques qui était beaucoup plus important qu'à l'époque. Et il faut se rappeler quand même qu'en 1945, quand le pays sort de la guerre, on a une dette publique qui est très 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 élevée, qui est au-delà de 200% du PIB. Et 30 ans plus tard, en 1974, eh bien la dette publique a été réduite à 20% du PIB, donc c'est la plus grande réduction de dette publique dans l'histoire. Et pourtant, pendant cette période-là, on a mis en place la sécurité sociale, le taux d'investissement public n'a jamais été aussi élevé, et on avait une croissance qui était aussi très 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 élevée. Et donc on a eu la démonstration qu'un modèle différent de celui qu'on a aujourd'hui, avec des postulats complètement différents, pouvait fonctionner et pouvait donner de très bons résultats économiques. Donc quand on nous dit que there is no alternative, qu'on n'a pas le choix, qu'il faut faire ça, qu'il faut absolument réduire la dette au lieu d'investir plus, etc., en fait c'est un discours idéologique, c'est pas du tout un discours rationnel, c'est pas du tout un discours qui est fondé sur des enseignements historiques et sur une analyse de ce qui a permis à un moment dans l'histoire de connaître véritablement une croissance très élevée. Et au contraire, en fait, on voit bien que on répète aujourd'hui les erreurs du passé. On voit bien que on répète les erreurs de la Grande Dépression, où on a des économies qui stagnent ou qui sont en déclin et sur lesquelles le seul horizon qu'on propose, c'est davantage d'austérité, davantage de réduction de dépenses publiques, alors qu'on sait qu'à chaque fois ça mène à des catastrophes, que ça soit sur le plan économique ou sur le plan politique d'ailleurs. Donc véritablement, moi je pense que les idéologues en matière économique, ils sont pas du tout là où on croit les voir. Hein. Ils sont beaucoup dans ceux qui influencent et qui dictent les politiques économiques du moment.
Mais justement, ça vient d'où, on va dire, parce que vous parliez justement des politiques d'austérité. On l'a vu une certaine période où ce que ça a pu faire en Allemagne avec la montée du nazisme. Aujourd'hui, il y a ce discours, ouais, de, il y a pas d'alternative, tout ça. On sait très bien, par exemple, de mettre en place des nouvelles politiques économiques, notamment plus écologiques, plus justes. Ça viendrait aussi bousculer, en fait, en gros, on va dire clairement, une classe bourgeoise. Est-ce que justement c'est pour se protéger eux-mêmes, en fait, qui veulent pas bouger le système économique actuel?
Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un premier élément qui est que on a des discours les mêmes qui sont serinés à longueur de journée et auxquels les gens finissent par adhérer parce qu'ils n'entendent que ça. Donc il y a véritablement une dimension de propagande. Hein. C'est clairement une forme de propagande sur le plan économique et les gens finissent par y croire. Par exemple, on leur fait craindre que un endettement très élevé ferait que les marchés financiers se détourneraient de la France, alors même qu'on emprunte aujourd'hui à des taux qui sont plus faibles que lorsque la dette publique était deux fois moindre, qu'à chaque fois que l'État émet de la dette, il y a cinq fois plus de demandes par les marchés que d'offres de dette de la part de l'État, etc., etc. Donc en fait, c'est des discours qui, dans les faits, sont très faciles à démonter, à retourner, et pourtant, on n'entend jamais ou presque ceux qui portent des discours qui vont contre cette doxa habituelle. Et ça, c'est lié, c'est un problème démocratique plus général, hein, qui est lié notamment à la structure des médias et aux intérêts qui sont défendus dans ces médias. Et là, en effet, il y a aussi une dimension de défense des intérêts de la part de grands groupes financiers, etc., qui, eux, dans le malheur ambiant, hein, si je puis dire, s'en sortent pas trop mal. Et puis surtout, qui ne veulent pas renoncer à leurs avantages acquis et à leur chasse gardée. Je prends par exemple les banques. Le secteur financier en général. Eh bien, évidemment que le secteur financier qui aujourd'hui, hein, la monnaie a été privatisée, la monnaie est aujourd'hui aux mains des banques privées, même si on a toujours une banque centrale qui par ailleurs est indépendante du politique, mais dépendante des marchés financiers. Donc en réalité, oui, il y a une forme de défense des intérêts, parce que aller expliquer à des banques privées qu'on va mettre en place des mécanismes, par exemple, de création monétaire publique, sous contrôle démocratique, qui éventuellement ne passerait pas par la dette et qui permettrait de mieux financer les actions non rentables que doivent mener les États, et ben pour eux, c'est leur faire perdre des parts de marché. Hein, ça veut dire qu'ils vont avoir des concurrents sur le plan de la création monétaire, sur le plan de la gestion de la monnaie, et évidemment ils n'en veulent pas. Ils veulent garder leur pouvoir, leur puissance. Ils ont par ailleurs été éduqués comme ça. Et d'ailleurs même quand il y avait pendant les 30 Glorieuses des mécanismes de circuit du trésor qui consistaient notamment à ce que l'État puisse emprunter aux banques privées à des taux qu'il décidait lui-même une partie du financement dont il a besoin, cette époque-là a été qualifiée par les penseurs néolibéraux monétaristes comme étant une époque de répression financière. Donc ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est qu'ils considèrent que faciliter le financement des États au détriment des banques privées, c'est ni plus ni moins que de la répression, ils n'en veulent pas. Même si on mettait aujourd'hui en place des circuits qui ne les contraindraient pas davantage, mais qui leur feraient perdre des parts de marché. Et de la même manière, vous avez le poids des lobbies, de ceux qui ont intérêt au libre-échange, de ceux qui ont intérêt à exporter. Et puis alors, par contre, il y a aussi une question qui, elle, est un peu légitime, que j'évoquais tout à l'heure, et qui se disait, mais si on doit financer tout ce qu'on doit financer aujourd'hui, on sait que les efforts d'investissement sont énormes, par exemple en matière de neutralité carbone. À l'Institut Rousseau, on avait fait un rapport qui s'appelle Road to Net Zero, et ce rapport montrait et chiffrait la totalité des investissements publics et privés qu'il faut mettre en place pour parvenir à la neutralité carbone. Et dans ce rapport, on montrait qu'il fallait investir entre 2 et 3% du PIB en plus chaque année, et qu'il y avait une bonne partie qui devait être de l'investissement public. Et c'est des chiffres d'ailleurs qui ont été repris après et par le rapport Pisani-Ferry et par la Commission européenne. Donc là-dessus, on a eu un rôle positif, parce qu'on a permis d'ancrer des ordres de grandeur qui aujourd'hui ne sont plus contestés. Mais la question qui n'est pas réglée, c'est comment on finance ça. Et donc là, vous avez un certain nombre d'entrepreneurs ou même de citoyens qui ont un peu peur et qui se disent, bon, si on doit financer tout ça en matière de transition écologique, qu'il faut en plus financer l'armée, qu'il faut en plus financer la santé, etc., est-ce que tout ça va se traduire par un allègement, par un alourdissement, au contraire, très important des impôts? Et ça, c'est une question, si vous voulez, qu'on ne peut pas complètement évacuer. C'est vrai que si on n'a pas à côté d'autres mécanismes de financement, eh ben la question se pose quand même. Parce que, bien sûr qu'on peut avoir, moi je suis totalement partisan, d'outils comme la taxe Zuckman ou comme une fiscalité accrue sur l'héritage, etc. D'ailleurs, on va proposer des choses sur ce point avec l'Institut Rousseau très prochainement. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire. On peut avoir un système fiscal beaucoup plus juste et qui rapporte de l'argent, mais les montants dont on parle sont colossaux. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros par an en plus. Et donc, on ne pourra pas tout obtenir par l'impôt. Et c'est là, à mon avis, le grand impensé aujourd'hui de tout le monde. Hein, d'ailleurs, moi, je pose souvent la question, y compris à des représentants du gouvernement, etc., mais aussi des partis politiques, où je leur dis, bon, bah, écoutez, si on est tous d'accord sur les ordres de grandeur à financer, maintenant, faites le calcul. Est-ce que si on considère qu'il faut investir chaque année de l'ordre de 200 milliards d'euros en plus, est-ce qu'on peut l'obtenir par l'impôt? Eh bien, en réalité, même si vous faites une taxe Zuckman, une taxation accrue des héritages, des efforts supplémentaires pour les grandes entreprises, même si vous faites tout ça, vous n'atteignez pas les sommes qui sont requises. Et donc, à un moment, la fiscalité ne suffira pas. Elle ne suffira pas. Et donc, comme on ne veut pas, à tort, recourir davantage à la dette, et la dette a par ailleurs aussi des inconvénients en matière d'intérêts financiers payés au marché, etc. Bref, la dette, c'est pas non plus toujours sans douleur, même si je considère qu'il vaut mieux ça que de ne rien faire, ça c'est clair et net. Eh bien, la seule solution, à un moment, pour sortir de cet imbroglio, c'est d'inventer de nouveaux modes de financement qui reposent en partie sur des mécanismes monétaires. Et là, bug généralisé. Personne ne sait vraiment comment faire. On se méfie un peu, on a peur, on n'est plus habitué à parler de ces questions-là. Et donc voilà. Et donc on se retrouve dans une situation où il y a une impasse, où la fiscalité ne suffit pas, la dette c'est pas la panacée. Il y a des tas de gens qui veulent réduire la dette avec des craintes que parfois on peut comprendre, même si très souvent elles sont excessives ou mal placées ou en défense de grands intérêts. Je veux dire, je vais pas pleurer si demain on taxe davantage Bernard Arnault, bien au contraire. Mais voilà, on peut comprendre que le petit patron de PME ait pas envie ses charges continuent à augmenter ou ses cotisations continuent à augmenter. Il y a un problème, il y a une impasse là-dedans des finances publiques qui aujourd'hui, à mon sens, n'est pas traitée sérieusement.
Mais du coup, quand on voit certaines propositions d'économistes, on parlait de décroissance, du coup, on peut faire indirectement lien avec Timothée Parik, mais il y a aussi Bernard Friot qui s'exprime sur un salaire à vie. Est-ce que ça, du coup, c'est réalisable? Est-ce que c'est utopiste? Quand on voit l'état de l'économie actuellement et les fonctionnements même de cette économie-là, lui il explique par exemple que en France on produit en revenu national brut 2600 milliards d'euros, mais qu'environ 1500 milliards d'euros suffisent en réalité pour que les 50 millions de plus de 18 ans en France aient un salaire moyen de 2500 euros par mois. Alors bon, là c'est très simpliste la façon dont je l'expose, mais est-ce que voilà, est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'il y a quand même moyen de voir autrement, en fait, d'autres horizons?
Alors c'est nécessaire d'avoir d'autres horizons, ça c'est évident. Et par exemple, avec Timothée Paris que je connais bien, on avait fait une conférence aussi pour l'Institut Rousseau, enfin un échange, un entretien tous les deux, et on se rejoignait sur beaucoup de points, à savoir que pour inventer une société post-croissance efficace, il va falloir le mode de financement qui va avec. Et c'est d'ailleurs un des problèmes aujourd'hui dans les études sur la post-croissance, qu'il n'y ait pas assez cette question du financement, de la monnaie, des politiques monétaires qui interviennent, parce que c'est un peu la condition de la réalisation, j'allais dire, sans douleur et effective d'une société véritablement post-croissance. Donc là-dessus, il y a beaucoup à inventer, il y a beaucoup à réfléchir, il faut connecter les différentes pensées pour imaginer l'avenir, ça c'est évident. Pour ce qui concerne les travaux de Bernard Friot, je les connais moins, donc je vais pas livrer une grande analyse. Il y a quand même quelque chose que j'avais trouvé, mais bon, c'est pas forcément le sujet de votre question, mais il y a quelque chose que j'avais trouvé un peu étrange chez Bernard Friot, c'est cette idée d'avoir des comités comités publics dont on ne sait pas très bien comment ils fonctionneraient, qui décideraient de la rémunération de tout le monde. Alors ça m'avait juste interpellé, parce que c'est vrai que la question des prix, et le salaire est un prix, c'est une question qui a été beaucoup posée en économie, et moi j'avais même lu les économistes du début de l'Union soviétique, hein, après 1917, qui s'étaient posé la question, ils s'étaient posé deux questions. Est-ce qu'il faut garder la monnaie, ou est-ce qu'on peut se passer complètement de la monnaie? Bon, ils avaient fini par trancher qu'en fait la monnaie, c'était indispensable dans le fonctionnement d'une société, et donc qu'il fallait la garder, même avec un contrôle de l'État, en l'occurrence, ce à quoi... parce que autant je suis favorable à des mécanismes qui permettent à l'État de mieux se financer, autant je pense que la monnaie ne doit être ni complètement privée comme c'est aujourd'hui, ni complètement soumise à l'État comme c'était le cas en URSS, et ça posait d'autres problèmes, hein, le problème de la Gosbank, de la banque unique, etc. Je pense qu'en réalité, la monnaie, c'est un bien commun et qu'elle doit être gérée comme un bien commun. C'est-à-dire avec des instances qui associent démocratiquement, qui définissent des règles démocratiquement, avec des contre-pouvoirs, des discussions, l'association de différents acteurs qui permettent de parvenir aux meilleures politiques monétaires possibles. Et ensuite, les économistes de l'Union soviétique s'étaient posé la question, est-ce qu'il faut abolir les prix? On garde la monnaie, d'accord, mais est-ce qu'il faut abolir les prix? Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que, d'accord, on pouvait avoir des prix contrôlés, dirigés, mais qu'en fait, là aussi, c'était très difficile quand même de contrôler totalement les prix. Et donc, ils sont assez vite revenus là-dessus. Ils ont permis une certaine flexibilité qui n'était pas totale, loin de là, des prix. Et ça, c'est la chose qui me dérange un peu avec Bernard Friot sur la question des salaires. C'est que, de ce que j'en connais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mécanisme de fixation très autoritaire des salaires de tout le monde en fonction de critères plus ou moins objectifs. Et là, on rentre quand même dans quelque chose que même l'URSS n'avait pas fait, quoi. On rentre dans quelque chose qui me semble très...
Ouais, je crois
très,
qu'il y avait Nicolas Framont, qui est sociologue, qui l'avait aussi souligné, quoi, cet aspect.
Oui, d'accord. Je connais Nicolas Framont de nom. Mais je pense qu'il y a quelque chose là qui est un peu excessif. Maintenant, sur l'idée générale qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de richesse et qu'elle est très mal répartie, c'est vrai. Ça, j'y souscris tout à fait. Et ça, c'est un paradoxe d'ailleurs que j'ai souligné dans mon dernier livre aussi, c'est que les mécanismes de création monétaire tels qu'ils existent aujourd'hui conduisent presque mécaniquement à faire en sorte qu'il y ait trop d'argent dans certains endroits et pas assez dans d'autres en même temps. Et ça, en fait, ça s'explique assez bien, en tout cas assez logiquement, par le fait que quand vous êtes une banque et que vous créez de la monnaie, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin que d'abord ça soit rentable, c'est-à-dire que la personne ou l'entreprise à qui vous prêtez de l'argent puisse vous rembourser cet argent et les intérêts qui vont avec. Donc, il faut que ça soit rentable. Et la deuxième, c'est qu'il faut quand même que vous preniez le minimum de risque et donc que vous ayez des garanties, qu'on appelle dans le système financier des collatéraux. En fait, les collatéraux, c'est très simple, c'est l'hypothèque que vous prend la banque sur le crédit, sur votre crédit immobilier. Et c'est pareil, en réalité, quand elles font des crédits à des entreprises, elles gagent ces crédits sur des actifs. Et donc, par conséquent, la création monétaire va presque mécaniquement s'orienter vers des endroits où il y a le maximum de rentabilité et le minimum de risque. Ou en tout cas le minimum de risque perçu. Hein. Par exemple, les marchés financiers, on se dit, bah tiens, on va prêter aux marchés financiers. Normalement, ils sont rentables, ils vont nous rendre l'argent avec intérêt. Et en plus de ça, ils peuvent mettre en garantie les actions, les obligations qu'ils ont dans leur portefeuille. Alors évidemment, quand le système financier se casse la gueule comme en 2007-2008, eh bien là, ça pose un problème. Et les banques sont en première ligne et certaines font faillite et ça fait peser une menace sur l'ensemble du système financier. Mais en dehors des temps de crise, j'allais dire en temps normal, mais c'est pas vraiment en temps normal parce qu'en réalité la crise est très récurrente dans le fonctionnement du capitalisme financier. Il y en a très très régulièrement et c'est donc presque devenu quelque chose en réalité de normal parce que justement ce système crée par lui-même des déséquilibres qui consistent à aller, moi c'est ce que j'ai appelé des trous noirs monétaires et il y en a deux en particulier, c'est les marchés financiers d'une part et l'immobilier d'autre part, qui vont attirer à eux toute la création monétaire et donc créer des bulles d'actifs, des bulles de prix, que ça soit sur les marchés immobiliers ou sur les marchés financiers. Et les bulles, bah, ça finit toujours à un moment ou à un autre par une crise, parce que la bulle se dégonfle et donc à ce moment-là, il y a des acteurs qui partent au tapis. Et donc là aussi, on a un intérêt à repenser en profondeur le système financier. Et c'est pas simplement de réglementation, de régulation, comme on dit parfois que je parle, parce que ce qu'on appelle réglementation, régulation, c'est généralement on met des dispositifs qui sont censés limiter les risques en matière de fonds propres, en matière de ratios de liquidité, de ratios prudentiels, etc. Mais ça, c'est que pour limiter les risques et ça change pas en profondeur le fonctionnement du système et notamment le fait que le système est créé par nature pour aller mettre un maximum d'argent dans les endroits qui sont les perçus comme étant les plus rentables ou les moins risqués, même si en réalité cet afflux d'argent finit par les rendre moins rentables et plus risqués. Mais ça, au moment où on crée de la monnaie, on ne le voit pas. D'où l'intérêt finalement d'avoir une réforme à la base des mécanismes qui permettent d'orienter l'allocation aussi par comment dire, ce qu'on appelle parfois par exemple le verdissement des collatéraux. Alors là, c'est un peu technique, mais c'est quelque chose pour lequel je plaide depuis longtemps auprès de la Banque centrale. En fait, ça s'explique assez bien. C'est dire aujourd'hui, quand vous avez une banque qui veut emprunter de l'argent, de la monnaie centrale à la Banque centrale, elle doit elle aussi apporter des titres en garantie. Eh bien, si elle apporte des titres d'entreprises polluantes on lui met une décote, et au contraire, si elle apporte des titres d'entreprise verte, on va lui donner un petit bonus. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de dire aux banques, eh bien, orientez votre crédit différemment. Aller davantage vers des actifs verts, vers des actifs sociaux, etc., et moins vers des actifs polluants et tout. C'est exactement pareil avec des taux différenciés. En gros, si vous voulez faire aujourd'hui de nouveaux forages et que vous demandez un crédit pour ça, ben on va vous mettre un taux qui pourra être dissuasif, alors que si vous voulez créer une entreprise d'éoliennes ou quelque chose comme ça, on va vous mettre des taux plutôt préférentiels. Donc on a des manières et des techniques très concrètes qui permettraient aujourd'hui d'avoir une allocation de la finance, de la masse monétaire, qui soit plus juste socialement, qui soit plus efficace économiquement et qui par ailleurs redonne réinscrit la politique monétaire et plus généralement le monde financier dans une logique de responsabilité sociale et politique, de choix, et non plus seulement de course à la rentabilité. Et voilà, moi je crois davantage à ça qu'à des mesures dirigistes comme celles que j'ai citées de Bernard Friot, qui me semblent peut-être moins efficaces, mais encore une fois j'ai une vision limitée de ces travaux, donc je ne porte pas d'appréciation sur l'ensemble de ces travaux, mais sur ce point des salaires que vous évoquez.
Mais est-ce que du coup, qu'on écoute toute la discussion qu'il y a eu à l'instant, c'est aussi un des points là que vous travaillez avec l'Institut Rousseau. Est-ce que, on va dire presque le premier combat, c'est pas justement le combat démocratique de repenser la façon d'exercer la démocratie pour en arriver là et puis d'avoir ces prises de décision là?
Alors je pense beaucoup, je crois qu'il faut expliquer qu'en matière économique, comme en matière sociale, comme en matière écologique, il y a en fait beaucoup de choses qui pourraient être débloquées si on avait de nouvelles institutions. Et là-dessus, je crois véritablement qu'une des pistes d'avenir, et qu'on défend très fortement à l'Institut, repose sur cette notion de bien commun. Pourquoi ? Parce que les biens communs, aujourd'hui, il conditionne de plus en plus la capacité des économies à faire ou à ne pas faire. Aujourd'hui, il devient impossible de considérer qu'on peut avoir une action économique efficace si on ne se préoccupe pas de la pollution, de la préservation de la forêt, de l'adaptation au changement climatique, de la question du mix énergétique, etc. Donc tout ça, la gestion de l'eau, de l'air, tout ça renvoie finalement à des biens qui sont communs à l'humanité, qui sont communs dans des sociétés. Et un des drames aujourd'hui, c'est que sur ces biens communs, soit on n'a pas de règles, soit on a les règles de la propriété privée qui s'appliquent avec peu de limitations. Et parmi les biens communs, il y a un économiste célèbre qui a fait des travaux très intéressants, c'est Karl Polanyi. Et Karl Polanyi en distinguait trois, le travail, la terre et la monnaie. Et on pourrait rajouter l'eau, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que Polanyi, à juste titre, considérait qu'il y avait des biens communs qui n'étaient pas simplement des biens environnementaux. Il y a aussi des biens communs qui sont le résultat d'institutions sociales. C'est le cas du travail, c'est le cas de la monnaie, et ces biens communs-là, aujourd'hui, ont été privatisés. Et ne sont pas gouvernés du tout comme on doit gouverner des biens communs, c'est-à-dire avec des mécanismes de délibération, de concertation, de démocratie. Et finalement, ces réflexions-là, elles sont pas nouvelles. Nos ancêtres, par exemple, du Conseil national de la Résistance, ils avaient mis dans leur programme que la monnaie était une chose, il ne l'avait pas dit comme ça, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, en disant que les monétaristes avaient dit que la monnaie était une chose trop sérieuse pour être laissée aux politiques, eh bien, nos ancêtres du CNR, ils avaient dit la monnaie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux mains des banquiers, et ils voulaient, par exemple, la création d'un parlement du crédit et de la monnaie. Et dans ce parlement du crédit et de la monnaie, il y aurait eu des représentants des banques, mais aussi de l'État, des collectivités territoriales, des citoyens, des associations, et tout le monde aurait dû se concerter, essayer de se mettre d'accord pour, eh bien, pour utiliser le mieux possible le bien commun qu'est la monnaie. C'est pas du tout la voie qu'on a choisie. On a choisi de confier la monnaie essentiellement à des banques privées, avec des banques centrales indépendantes des pouvoirs politiques et qui aujourd'hui ont été très largement infiltrées par par les représentants des grandes banques. Hein. Il suffit de voir qui gouverne aujourd'hui les banques centrales. Hein. C'est tous en France et ailleurs. C'est tous des anciens de grandes banques, donc qui défendent aussi des intérêts corporatistes. Et voilà, et c'est très loin de l'idée de bien commun. C'est pareil en matière, alors en matière de travail, heureusement, il y a quand même des syndicats, il y a quand même des partenaires sociaux qui essayent de gérer, mais qui sont de plus en plus affaiblis. Donc voilà, donc il y a une vraie réflexion à refaire, en effet, sur la place de la démocratie, sur la place de la délibération collective, dans tout ce qui est la gouvernance des mécanismes économiques, sociaux, environnementaux. Et je crois que c'est vraiment une des clés pour parvenir à changer de système.
Eh ben merci Nicolas.
Eh ben merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu concernant les notes de ce podcast. Rendez-vous sur notre site move.tract.fr. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode, rubrique blog, pour découvrir le travail de Nicolas Dufresne. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que vous trouverez dans les notes de l'épisode. Avant de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Tract ou celui de SinsNothing en tapant Sins.Nothing ou Tract.Move dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.